pour demander à Marie-Christine Vergia si elle a des informations sur l'état d'avancement de l'examen. Je crois que l'élection du nouveau Parlement européen a un peu rebattu les cartes et on serait évidemment intéressé de savoir dans quelles conditions et l'examen va débuter maintenant à la Commission en liberté du Parlement.
Je ne suis plus députée européenne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai été députée européenne pendant 10 ans et j'ai travaillé à la commission des libertés civiles. Donc je confirme tout ce qui a été dit. À une nuance près par rapport à ce qu'a dit Catherine, c'est le Parlement européen qui a bloqué le paquet asile, notamment parce qu'il voulait bloquer la réforme de Dublin. Qui a bloqué le paquet asile parce qu'il voulait bloquer le règlement Dublin notamment. Le Conseil voulait les directives les plus techniques, il voulait les faire avaliser, ce que le Parlement européen a refusé de faire. Mais sur la façon de faire, il est difficile, tant qu'il n'y a pas eu véritablement de texte adopté, de savoir quelle est la nouvelle majorité au Parlement européen. De ce que j'ai vu jusqu'à présent et pu analyser, je crois qu'on peut continuer à faire pression sur le Parlement européen sur un certain nombre de sujets. C'est vrai que sur Dublin, il y a vraiment un fossé entre le Conseil et le Parlement européen. Parce que le Parlement européen a continué d'essayer, comme l'a dit Catherine, de faire un certain nombre de choses positives, guillemets, notamment le fait que les pays premiers entrants devaient être... On devait permettre de sortir du blocage entre, d'un côté, on est pays entrant et de l'autre, il y a le bloc de Visegrad. Parce qu'il y a une certaine hypocrisie des autres États membres, y compris de la France, sur ces questions-là. Parce que le bloc de Visegrad est à bon dos, je dirais, sur un certain nombre de sujets. Je ne sais pas comment vont évaluer les choses et je ne suis pas sûre que la directive retour va être examinée très très vite. Ça sera la volonté de la Commission et du Conseil. Mais le travail parlementaire, c'est le travail parlementaire et personne ne peut faire pression sur l'ordre du jour du Parlement européen. Il faut regarder effectivement comment les choses vont évoluer. Il y a un élément que je voulais ajouter, qui n'est pas un élément d'optimisme et qui est au contraire un élément de pessimisme. Vous avez peut-être vu qu'aujourd'hui, l'ANAFE a distribué un document d'analyse sur la question des frontières, les frontières intelligentes, comme ils disent, et qui est la mise en place de fichiers aux frontières de l'Union européenne, avec la question de l'interopérabilité, donc de la mise en cohérence de l'ensemble des fichiers européens. Avec le système entrée et sortie qui a déjà été adopté au niveau des institutions européennes, avec le fichier ETIAS, avec les fichiers des demandeurs d'asile, etc., etc., avec une coordination entre les fichiers européens et les fichiers qui vont être mis en place dans le cadre des directives et règlements que vous venez d'évoquer. Tout le système vise à empêcher les gens d'arriver sur le territoire de l'Union européenne. Et moi, je crois qu'on a aussi un travail à faire en disant que tous les étrangers ne sont pas traités de la même façon. Ceux qui sont visés en premier lieu, ce sont ceux qui sont le plus en situation de demander l'asile. Chaque année, il y a 2 millions 500 000 personnes qui arrivent régulièrement sur le sol de l'Union européenne. Ceux qui ne peuvent plus venir, alors je vais rejoindre ce que disait la dame, c'est notamment les pays des anciennes colonies. C'est notamment les pays du Sud. Il est de plus en plus difficile pour eux d'avoir un visa. Donc je crois qu'il faut alerter là-dessus et expliquer les choses par rapport à ça. La distinction qu'ils essayent de mettre en œuvre sur les fameux migrants qui sont d'un côté les bons demandeurs d'asile et de l'autre côté les mauvais migrants économiques, c'est du pipeau. Il y a des migrants économiques qui arrivent chaque année sur le territoire de l'Union européenne, notamment dans les pays du groupe de Visegrad, notamment en Pologne, avec le circuit qui se met en place entre l'Ukraine et la Pologne. Et ce ne sont pas des demandeurs d'asile, parce qu'en Pologne, il n'y a quasiment pas d'asile. C'est des travailleurs économiques. Donc je crois qu'on a aussi intérêt, dans le cadre de ça, de distinguer les choses et de dire que c'est bien les demandeurs d'asile qu'on essaye d'empêcher de faire venir sur le territoire. Et je, par ailleurs, je crois qu'il faut effectivement faire une campagne sur les parlementaires européens, sans oublier le gouvernement français qui a aussi sa responsabilité dans les décisions qui sont prises au niveau du Conseil. Et sur le dispositif Macron, moi j'y crois pas une minute, c'est de la com pour moi. C'est de la com parce que ça vise un nombre infinitésimal de personnes, c'est les personnes qui sont débarquées des bateaux. Donc Macron se fait de la publicité sur un style humanitaire, à bon compte, sur ces questions-là, alors que la France est un des pays qui continue à octroyer le moins de protection internationale. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre en avant les demandes d'asile, il faut aussi voir ce que l'on fait des demandes d'asile. Et la France est un des pays qui accorde le moins l'asile proportionnellement à sa population et au nombre de demandes reçues. Je ne sais pas si Madame Teul, j'ai satisfait à votre demande.
Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à la demande de mon voisin.